Ainsi le héros se présente à la reine, et son aspect inattendu ravit tout un peuple en extase. Le voici devant vous, celui que vous cherchez, dit-il. Ce Troyen malheureux, cet aîné, dont le sort vous touche, les dieux l'ont arraché au Syrte de la Libye. Ô vous, seul sensible aux affreux revers d'Ilion, c'est donc peu de nous accueillir, nous déplorables restes de la fureur des Grecs, nous sur qui la terre et les mers ont épuisé tous leurs fléaux, nous délaissés de la nature entière. Vous daignez encore nous offrir une patrie dans vos remparts, un asile dans votre cour? Ah, pourrons-nous jamais, généreuse Didon, reconnaître tant de bonté? Non. Vos soins prévenants ont surpassé nos espérances, et tout ce qui survit de Troie dans l'immense univers ne saurait payer vos bienfaits. Mais si le ciel honore l'équité, si le bonheur suit la vertu, puisse la faveur des dieux, puisse le témoignage d'un cœur pur être la digne récompense d'un si noble intérêt. Quels siècles fortunés vous ont vu naître? Quels parents illustres vous donnèrent le jour pour l'ornement du monde? Tant que les fleuves courront vers l'océan, tant que les heures promèneront les ombres penchant des montagnes, tant que le feu des astres s'alimentera dans les cieux, oui, toujours votre auguste image sera présente à ma mémoire. Et quels que soient les lieux où le destin m'appelle, j'y publierai sans cesse la gloire de votre nom. Il dit. Et s'avançant d'un air affable, il présente une main au sage Ilioné, offre l'autre à Céreste, puis embrasse tour à tour et le brave Gyas, et le vaillant Cloanthe, et leurs fidèles compagnons. Étonné de tant de grandeur, et touché de tant d'infortune, Didon gardait un long silence. Mais élevant enfin la voix. Quel sort contraire, ô fils d'une déesse, vous précipite à travers de pareils orages? Quelle puissance ennemie se plaît à vous jeter sur des plages barbares? Vous êtes donc cet illustre aîné que la belle Vénus mit au jour près des ondes du Simoïs, quand elle reçut dans ses bras le magnanime Anchise? Jadis, je m'en souviens, Teucer, chassé de Salamine et cherchant de nouveaux états, vint solliciter à Sidon le secours de mon père. Alors, vainqueur de l'opulente Chypre, Bélus y portait la terreur et la soumettait à ses armes. Dès ce temps, je connus déjà les désastres d'Ilion. Je connus vos exploits et les chefs de la Grèce. Bien qu'ennemi de Troie, Teucer exaltait lui-même la valeur des Troyens et se disait issu de vos antiques monarques. Venez donc, ô guerriers, nos demeures vous attendent. Comme vous, j'ai longtemps subi les rigueurs de la fortune, et c'est après 1000 traverses qu'elle me fixe enfin sur ses bords. Venez! Mes malheurs m'ont appris à secourir les malheureux. À ces mots, elle conduit Aînée dans son palais, et l'encens fume par ses ordres dans les temples des dieux. Elle parle, et les Troyens restés sur les navires ont reçu 20 taureaux choisis, 100 porcs aux larges flancs hérissés de soie, 100 agneaux gras et leurs bêlantes mères. Bacchus y joint sa liqueur, doux charme de nos chagrins. En même temps, l'intérieur du palais voit déployer pour l'embellir tout le luxe des rois, et l'appareil des festins se dispose sous des lambris magnifiques. Partout de fastueux tapis étalent et leur pourpre superbe et leur travail inimitable. L'argent resplendit de toutes parts sur les tables pompeuses. De toutes parts y reluit un or pur, où l'art industrieuse a gravé l'éclatante histoire des aïeux de Didon. Chaîne immense d'événements célèbres, dont le premier anneau se rattache à l'antique berceau de Sidon. Mais Énée brûle de revoir un fils cher à son amour. Il charge Achate de voler à la flotte, d'apprendre au jeune Ascagne ses heureuses nouvelles, de l'amener lui-même. Ascagne est l'unique espoir du plus tendre des pères. Énée recommande encore qu'on choisisse pour Didon les trésors échappés aux ruines de Troie. Un manteau de drap d'or que l'aiguille a brodé, un voile où serpente en bordure une acanthe à feuilles d'or, somptueux ornement d'Hélène, don précieux qu'elle reçut de Léda, sa mère, et qu'elle emporta de Mycène lorsque, entraînée par une folle ardeur, elle vint former à Pergame les nœuds d'un coupable Hyménée. Il demande surtout le sceptre, qui brillait autrefois dans la main d'Ilione, l'aînée des filles de Priam, et le collier de perles qui paraît son sein, et la riche couronne où l'or se mêlait sur son front à l'éclat des pierreries. Achate, empressée d'obéir, a déjà touché les vaisseaux. Cependant, Vénus roule en sa pensée de nouveaux projets et médite de nouvelles ruses. Elle veut que, changeant de forme, Cupidon paraisse à Carthage sous les traits de l'aimable Iule. En offrant les dons du héros, il embrase la reine d'une ardeur imprévue et la pénètre tout entière des feux de l'amour. Vénus craint une cour suspecte, un peuple ombrageux et sans foi. Elle tremble en songeant au complot de Junon, et de noirs soucis la tourmentent jusque dans l'ombre de la nuit. S'adressant donc à son fils, elle lui tient ce langage. Mon fils, ô toi qui fais ma force et toute ma puissance, mon cher fils, toi qui seul ris des foudres dont le maître du monde pulvérisa Typhée, c'est à toi que j'ai recours. Une mère suppliante implore ton pouvoir. Tu sais avec quelle fureur une déesse implacable poursuit de mers en mer et de rivage en rivage ton déplorable frère. Tu le sais. Et plus d'une fois tu mêlas tes pleurs à mes larmes. Maintenant, Didon le caresse et l'attrait d'un doux accueil le retient auprès d'elle. Mais je redoute un asile ouvert par Junon. Sa haine, quand tout la serre, ne restera point oisive. Prévenons des trames funestes. Quand lassée dans tes nœuds, investie de tes flammes, la reine ne puisse m'échapper. Quand dépit des dieux contraires, elle brûle sans remède, et qu'un invincible amour l'enchaîne avec nous aux intérêts d'aînés. Le succès est facile. Voici le piège où tu peux la surprendre. Ascagne, ce jeune enfant des rois, ce cher objet de tous mes soins, Ascagne, attendu par un père adoré, se dispose à visiter les murs de la nouvelle Sidon. Il doit y porter les présents sauvés des mers en courroux et d'Ilion en cendres. Je vais l'endormir d'un magique sommeil, et le déposant à l'écart sur les hauteurs de Cythère ou dans les bosquets d'Idalie, je le cacherai moi-même au fond de mes riants berceaux, pour qu'il ignore notre heureuse imposture et n'en puisse troubler le mystère. Toi, pour une nuit seulement, emprunte sa figure, enfant comme lui, prends ses traits enfantins. Et quand l'aimable Didon te recevra sur ses genoux, au milieu des banquets splendides et des douces fumées de Bacchus, quand tu la verras te prodiguer de tendres embrassements et te couvrir de baisers, souffle un feu secret dans son cœur et glisse dans ses veines un poison subtil. L'amour obéit à la voix d'une mère chérie. Il dépose en riant ses ailes. Il marche. C'est Iule, et l'amour s'applaudit. Alors Vénus fait couler dans les sens d'Ascagne un paisible repos. Et penchée sur son sein, la déesse l'emporte dans les bois sacrés d'Idalie, où la suave marjolaine lui prodigue ses parfums et l'environne d'un agréable ombrage. Cependant, fier de son message, Cupidon poursuivait sa route, et, conduit par Achate, portait en triomphe à Carthage les présents d'Ilion. Il arrive. Déjà la reine, assise au milieu de sa cour sous un dais magnifique, foulait un carreau brillant d'or, et présidait aux honneurs du festin. Déjà le fils d'Anchise, déjà ses guerriers magnanimes, sont placés autour d'elle, et repose couché sur la pourpre. Des esclaves attentifs épanchent une eau limpide sur les mains des convives, offrent pour les sécher de fins tissus de laine et présentent les dons de Cérès dans de riches corbeilles. 50 femmes veillent dans l'intérieur aux apprêts du service. Andreste avec art la pompeuse ordonnance et entretiennent les flammes dans les foyers ardents. 100 autres, et un nombre égal de serviteurs choisis, et dans la fleur de l'âge, chargent la table de mets délicieux et la couronne de coupes écumantes. Invitée au banquet, l'élite des Tyriens ajoute par sa présence à l'éclat de cette fête, et s'y presse, rangés sur des tapis éblouissants. On admire les présents d'aînés, on admire les charmes d'Iule, et sa feinte innocence, et ses traits où rayonne un dieu. On admire et le manteau superbe, et le voile embelli d'une acanthe à feuilles d'or. Didon surtout, l'infortuné Didon, dévoué aux horreurs du sort qui l'attend, ne peut rassasier sa vue de ces images trop flatteuses. Plus son œil les contemple, plus son cœur s'enflamme. Et les grâces de l'aimable enfant et ses dons séducteurs la remplissent d'une égale ivresse. D'abord, l'artificieuse amour, suspendue au cou du héros, semble s'oublier dans ses bras, errant caresse pour caresse à l'erreur d'un père abusé. Ensuite, il vole vers la reine. Les regards fixés sur lui seul, l'âme occupée tout entière de ses perfides attraits, Didon l'approche de son sein. Didon l'y presse avec ardeur. Malheureuse, elle ignore quel dieu redoutable folâtre sur ses genoux. Lui, cependant, fidèle aux leçons de sa mère, il efface peu à peu, Psyché, du souvenir d'une épouse, et, par degrés, ouvre au feu du désir un cœur depuis longtemps paisible, et déjà tiède au doux plaisir d'aimer. Mais le banquet touche à son terme, et les mets sont desservis. Enfin paraissent les larges coupes des libations et l'écume pétillante en couronne les bords. Des cris de joie s'élèvent et les voix confondues roulent en bruyants éclats sous les vastes lambris. Suspendus alors des plafonds, 100 lustres étincelles de feu dont la clarté triomphe de l'obscurité de la nuit. La reine alors demande ce riche cratère, magnifique assemblage de diamants et d'or, noble héritage de Bélus et des rois de sa race. Didon le remplit d'un vin pur, et soudain règne un religieux silence. Ô Jupiter, dit-elle, Dieu protecteur de l'hospitalité, fais que ce jour soit heureux pour les enfants de Tyr, pour les enfants de Troie. Fais que la mémoire en soit chère à nos derniers neveux. Viens parmi nous, divin Bacchus, père aimable de la gaieté. Bienfaisante Junon, sois propice à nos vœux. Et vous tous, ô fils d'Agénor, célébrez avec moi la fête qui nous rassemble. À ces mots, elle épand sur la table les prémices de la douce liqueur. La première, après cette offrande, elle effleure des lèvres la coupe écumante, la donne ensuite à Bitias et le provoque en souriant aux exploits des buveurs. Il la prend, la vide d'un trait, et s'inonde à longs flots du nectar vermeil. Puis, de nouveau rempli, le vase d'or circule parmi les convives. En même temps, Iopas, à la belle chevelure, fait résonner sur sa lyre d'or les serres sublimes du grand Atlas. Il chante le cours inconstant de la lune et la route enflammée que décrit le soleil. Quel pouvoir a formé l'homme et tout ce qui respire? Quelle cause allume sur nos têtes la foudre et les orages? Il chante l'humide Arcture et les Iades pluvieuses et le char glacé des deux ours. Pourquoi le jour, durant l'hiver, court se plonger si tôt dans l'océan? Pourquoi la nuit, durant l'été, nous rend si tard ses ombres paresseuses? Il chante. Les Tyriens éclatent en applaudissements redoublés, et les Troyens y répondent. Cependant, l'infortuné Didon prolongeait sans fin dans la nuit des entretiens trop chers et s'enivrait lentement du poison de l'amour. Sans cesse, elle s'épuise en questions sur Priam, en questions sur Hector. Sans cesse, il faut lui peindre ou l'armure du fils de l'Aurore, ou les coursiers de Diomède, ou les exploits d'Achille. Mais plutôt, dit-elle, apprenez-nous, généreux étrangers, l'histoire de vos malheurs depuis leur origine. Racontez-nous et les pièges des Grecs, et l'heure fatale d'Ilion, et vos longues aventures. Car, déjà le septième été, vous voit errant sur des plages lointaines et des mers inconnues.